Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour parler de vous. Donc, comme Mathias l'a dit, je suis doctorante en histoire et alors je termine là une thèse sur l'histoire du loup en Wallonie et au Grand-Duché de Luxembourg. Plus précisément, je me suis intéressée au rôle des politiques de lutte qui ont été mises en place au XVIIIe et XIXe siècle dans la disparition des loups. Mais ce soir, je ne vais pas vous parler de l'histoire du loup, mais plutôt en fait de l'intérêt d'une étude historique sur le sujet pour répondre à un enjeu sociétal actuel, à savoir le retour du loup. Dans cette exploration des apports d'histoire, on va quand même faire plusieurs plongées dans le passé pour décortiquer quelques idées reçues sur le loup. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord un peu planter le décor. Donc 2018, ça marque le retour officiel du loup en Belgique avec l'installation de la louve Naya en Flandre et du loup Akela en Wallonie. Aujourd'hui, on a 4 meutes en Belgique. On en a une en Flandre et puis on en a 3 en Wallonie, donc une au nord des Hautes-Fagne, une au sud et puis une sur le territoire dit du Nord Eifel. Alors ce nombre de meutes et surtout même leur répartition sur le territoire, elle va peut-être être amenée à évoluer pendant ces premiers prochains mois suite à la mort du loup dominant de la meute flamande, Auguste, qui a eu lieu en juillet 2023, et puis à la mort de la louve dominante de la meute du nord des Hautes-Fagne, Maxima, et ça c'était en mars 2024, dans les deux cas, dans des collisions avec des véhicules. Donc voilà. Alors, en prévision de ce retour, il faut savoir que le service public de Wallonie, donc le SPOE, en 2017, a créé le Réseau Loup. Le Réseau Loup, c'est une structure d'expertise qui est chargée d'effectuer le suivi systématique de l'espèce. Ce réseau, il se compose d'experts, mais également de représentants des milieux de l'élevage, de la chasse et de la faune et de la flore. Et puis alors, au niveau du SPOE, il est coordonné par le DEMNA, c'est le département de l'étude du milieu naturel et agricole. Donc pour le SPOE, l'objectif face à ce retour du loup, c'était vraiment d'essayer de préparer la Wallonie et notamment les éleveurs pour essayer d'avoir une cohabitation la plus pacifique possible. Et pour cela, en 2020, la Wallonie s'est dotée d'un outil, c'est le plan loup, plus précisément le plan d'action pour une cohabitation équilibrée entre l'homme et le loup. Alors c'est un plan qui a une durée limitée. Tous les 5 ans, il est révisé pour être adapté à l'évolution de la situation et il est soumis au Parlement. Donc là, a priori, la prochaine échéance est toute proche, ça devrait être cette année. Donc le plan loup, actuellement, il a 4 axes d'action. Le premier, c'est le suivi de la présence et de l'installation des loups en Wallonie. On a la protection de l'espèce et la gestion des situations problématiques. La protection des troupeaux via des mesures de prévention et d'indemnisation appropriées. Et puis on a la sensibilisation des publics, plus précisément donc, des acteurs du monde rural et du grand public, donc c'est nous. Quoi. Donc à côté de ces deux outils, on a évidemment une mobilisation de la recherche scientifique pour essayer de mieux comprendre le loup, donc sa biologie, ses habitudes, pour essayer d'adapter aussi l'élevage à sa présence. Ce qui fait que parmi les disciplines mobilisées, on a toute une série ici des sciences de la vie, comme l'éthologie, la biologie, les sciences vétérinaires, les sciences de l'élevage, etc. En revanche, les sciences humaines, comme l'histoire, elles, étaient plutôt absentes. Or, une question se pose, est-ce que ces sciences ne pourraient pas, elles aussi, apporter des éléments de réponse? Donc cette question, je me la suis posée en 2018-2019, donc plus ou moins quand le loup revenait en Wallonie. Je me la suis posée en face, en fait, notamment face à la situation en France. Plus précisément, deux éléments m'ont interpellée à l'époque. Le premier, ben c'est ça. C'est chaque année, voir toutes les tensions qui sont rapportées notamment par les médias sur les tensions entre les loups et leur nuisance notamment, et les populations, en particulier les éleveurs. Et le second élément qui m'a interpellée, ça va être en fait le développement de projets de recherche pour développer, voire retrouver des solutions pour pouvoir cohabiter avec le loup. Donc face à ce constat, je me suis demandé si finalement l'histoire à son échelle ne pouvait pas aussi aider, apporter des réponses pour éviter de se retrouver avec une telle situation de tension et de conflit en Wallonie, et puis aussi face à l'hypothèse qu'après plus d'un siècle à vivre sans le loup, une perte de savoir a dû se produire, et donc finalement, ne pourrions pas nous apprendre un peu de nos anciens, voir comment il cohabitait avec le loup et voir si on n'a pas des pistes de réflexion, voire de solutions. Donc c'est ce qui m'a amené à m'intéresser plus précisément donc, au rôle des politiques de lutte qui ont été mises en place au XVIIIe et XIXe siècle dans nos régions dans la disparition de l'espèce. Alors cette disparition, elle remonte aux années 20. Donc ici on a la dernière mention qui a été pour l'instant identifiée dans la presse régionale du dernier loup donc abattu, ben là c'est en province de Namur. Donc 1920, ce serait correspondrait au dernier passage de loup. Ce sont en fait des éléments tout à fait des événements exceptionnels à l'époque parce que la disparition des populations endémiques de loup est bien antérieure, on l'estime aux années 1890. Alors à cette question de recherche principale se greffe toute une série de questions subsidiaires en lien que j'ai explorées, à savoir la présence passée des loups. Finalement, est-ce qu'il y avait beaucoup de loups dans nos régions? Où se trouvaient-ils? Dans quelle région vivaient-ils? Comment les loups étaient-ils perçus à l'époque? Comment se passait la cohabitation au quotidien? Étaient-ils dangereux, oui ou non, pour l'être humain? Donc ce qui est intéressant de toutes ces questions, c'est qu'en fait, elles sont régulièrement posées dans tous les discours et débats publics suscités par le retour du loup dans nos régions. Alors pour répondre à toutes ces questions, j'ai utilisé quatre types de sources historiques. La première, c'est la presse régionale des 19e et 20e siècles. On a vu l'article là, sur la disparition du loup, qui m'a permis notamment de préciser cette date de disparition du loup en Belgique. On a ensuite la littérature scientifique et cinégétique, donc tous les traités de chasse des 18e et 19e siècles, qui là vont nous donner toute une série d'informations sur la biologie des loups des 18e et 19e siècles, et également pouvoir mesurer le niveau de connaissance des populations à l'époque sur le loup. On a des traces matérielles de loups, donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des restes de loups anciens, donc ici on a une oreille ou des loups naturalisés qui sont présents dans des institutions culturelles ou également chez des particuliers. Et puis enfin, ça c'est vraiment le cœur de mon corpus de sources, ce sont les sources législatives et administratives qui ont été produites dans le cadre des politiques de lutte au XVIIIe et XIXe siècle. Donc il faut savoir que vraiment dans la continuité de ce qui se faisait déjà avant depuis plusieurs siècles, au XVIIIe et XIXe siècle, les autorités mettent en place des plans de lutte, de régulation, dans un premier temps pour limiter les nuisances du loup, et puis progressivement, au fil du XIXe siècle, ça va s'intensifier, et là, l'objectif ne sera plus de limiter les nuisances, mais de les supprimer via l'extermination du loup. Alors, pour comment on a régulé ces loups, en fait, on a trois grands outils qui sont vraiment séculaires, qu'on trouve déjà dès l'Antiquité. Ça va être l'octroi de primes à tout un chacun qui tue un loup, donc c'est donner une récompense. Ça va être l'organisation de battues, donc des chasses au groupe, comme ça se fait encore aujourd'hui avec le sanglier, par des communautés locales. Et puis, on a la louveterie, donc c'est un corps de chasse spécialisé, mais qui, dans nos régions, dans le cas du 19e siècle et du 18e siècle, n'a pas vraiment vécu longtemps, une dizaine d'années. Donc j'en parlerai assez peu. Alors évidemment, pour mettre en œuvre tous ces outils, ça a produit des archives législatives et administratives. On a ainsi toute une série de textes législatifs et réglementaires. On a également des certificats qui étaient remis aux citoyens qui venaient présenter leur loup pour avoir une prime. On a tous les comptes rendus débattus, la correspondance administrative pour le traitement de ces dossiers de demande de prime et demande de battue, et puis on a les archives de la louveterie. Donc ici, vous avez un exemple d'un certificat. Je vous ai quand même remis la transcription pour que ça soit plus facile. Donc ça, c'est vraiment un peu le certificat parfait parce qu'il est assez complet. Des fois, c'est un peu plus succinct. Donc, vous allez pouvoir voir ici la richesse, en fait, de cette archive. Voici toutes les données qu'on peut en tirer et sur lesquelles je me suis appuyée pour la réalisation de ma thèse. Alors pour revenir à ce qui nous préoccupe ce soir, à savoir la cohabitation avec le loup, donc dans cette recherche d'une cohabitation équilibrée, pour reprendre les termes du plan loup, l'histoire elle peut contribuer de quatre façons différentes, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors un premier rapport de l'histoire, si ce n'est peut-être le premier rôle de l'histoire, ça va être de dépassionner le débat, porter un peu de hauteur, une prise de recul finalement pour mieux avancer. Donc il faut savoir que le loup, c'est vraiment un sujet sensible, même très sensible, au point de cristalliser beaucoup de tensions. On a même, qui vont même opposer deux camps. On a les pro-loups et les anti-loups. Alors comment l'histoire, elle peut dépassionner le débat? Ça va se faire de deux manières. Tout d'abord, en étudiant de manière critique l'histoire du loup et en recontextualisant les faits du passé. Et puis, en vérifiant et en confrontant, grâce à cette analyse historique, toute une série d'idées reçues. Et c'est ce qu'on va faire ici à plusieurs reprises dans la conférence. Et on va commencer par un exemple assez connu, c'est la question de la dangerosité du loup. Donc, est-ce que le loup est dangereux pour l'être humain? Donc ça, c'est vraiment une question, la dangerosité du loup, qui s'inscrit vraiment dans le registre de l'émotion, et c'est surtout un argument qu'on retrouve vraiment régulièrement dans les discours en faveur ou en défaveur du loup. Donc typiquement, dans les discours en faveur du loup, on va avoir l'idée que le loup... Dans le cas des discours en faveur, premier cas, on va avoir l'idée que le loup n'est pas dangereux pour l'être humain et les cas d'attaque dans le passé relèvent en fait de la rage. Et puis là, à l'opposé, dans le cas des discours en défaveur, là, on va plutôt avoir l'idée évidemment que le loup est dangereux pour l'être humain, qu'il y a un risque régulier d'attaque sur tout un chacun, des attaques dues à des accidents, mais également à de la prédation sur l'homme. Alors la question, c'est évidemment entre ces deux positions, où se trouve la réalité historique que nous apprennent les archives. En fait, ce que nous apprend l'analyse des témoignages historiques, c'est que contrairement au discours de certains défenseurs du loup, oui, les attaques sur l'être humain constituent bien une réalité historique, et elle n'était pas seulement le fait de loups enragés. Donc on avait vraiment eu des cas de loups sains qui ont attaqué des êtres humains. Mais en revanche, contrairement au discours de certains opposants au loup, ces attaques n'étaient pas systématiques ni fréquentes. Donc si on prend le cas de la Wallonie, plus précisément des provinces de Namur, Liège et du Luxembourg belge, plus le Grand-Duché de Luxembourg, entre 1797 et 1830, on a 5 attaques qui sont clairement identifiées dans les sources administratives. Alors, si on prend la typologie qui a été établie par Jean-Marc Morisseau, donc c'est un historien français qui a beaucoup étudié la question des attaques, un des précurseurs, il identifie 5 types d'attaques. On a les attaques fortuites, donc ça c'est vraiment des accidents exceptionnels. On a ensuite les réactions de défense, donc typiquement c'est une rencontre avec le loup, il sent menacé, ou quand on va rechercher une proie au loup, donc typiquement le cas du berger qui va rechercher un mouton qui s'est fait capturer par un loup. Donc là, généralement, ça cause des blessures non mortelles. On a les cas de nécrophagie, donc ça concerne les cadavres sans sépulture. Ça arrive régulièrement dans les périodes de famine ou de guerre où on n'a pas la possibilité d'enterrer, ou alors un homicide, pour l'anecdote plus croustillante. Là. Et puis, alors, on a des cas d'attaque anthropophage, donc on a vraiment là une volonté de prédater un être humain. Là, à nouveau, il y a différents cas d'attaque anthropophage. Ça peut être une erreur, tout simplement une confusion, ou alors une capture occasionnelle face à un manque de proie, voire, dans certains cas, une spécialisation alimentaire. Donc là, c'est typiquement le cas de la bête du Gévaudan, où on a des loups pour qui l'être humain est sa proie principale. Et puis enfin, on a les attaques de rage. Donc si on regarde ces typologies et nos 5 attaques, nous, on a affaire à une réaction, une qui est une attaque, une réaction de défense, mais qui en réalité visait le chien qui accompagnait le garde forestier qui se baladait en forêt. On a une attaque anthropophage qui se passe en 1802 sur un garde dans la forteresse de Luxembourg. Le garde s'en est sorti. Et puis on a 3 attaques de rage. Donc ici, ce témoignage nous montre bien que le risque zéro n'existait pas. Alors certes, ces 5 attaques, il y en a certainement eu d'autres à côté. Il y a eu d'autres attaques certainement, dont on n'a pas conservé la trace, parce qu'elle n'est pas parvenue à nous, parce que les archives ont été détruites, ou alors parce qu'elles se trouvent dans d'autres types de sources. Les principales sources, en fait, pour étudier les attaques sur l'être humain, ce sont les registres paroissiaux, que moi, je n'ai pas eu le temps d'étudier, et ce n'est pas le sujet. Hein, pour ça. Mais donc, on aurait ici, ces 5 attaques seraient plutôt la surface de l'iceberg. Alors évidemment, il y a la question de la partie immergée de la, iceberg. Est-ce qu'on a affaire en dessous à des centaines ou des milliers d'attaques? Alors, ce que nous montrent les sources administratives, c'est qu'a priori, en fait, on n'a pas affaire à un phénomène important, mais au contraire, qui serait plutôt marginal. Pourquoi ? Parce que dans les sources administratives, on ne retrouve aucun moment un ras-le-bol face à ces nuisances. On n'a pas des demandes de battues qui sont formulées à la suite d'une ou plusieurs attaques dans une région. On n'a non plus aucune référence à des foyers d'attaque comme le cas de la bête du Gévaudan. Ainsi, ça nous montre bien qu'en fait, on a affaire à un phénomène historique, mais qui est marginal, en particulier en comparaison aux attaques sur le bétail, qui constituaient vraiment la principale source de mécontentement à l'époque. Alors, un second apport de l'histoire, qui est directement en lien avec le premier, c'est la sensibilisation et la vulgarisation du grand public. Et là, c'est un apport vraiment important, car pour atteindre une cohabitation équilibrée, il faut évidemment que la présence du loup soit acceptée par le plus grand nombre. Et ça nécessite de sensibiliser le grand public à la question du loup, donc ses habitudes, son comportement, mais également tous les enjeux liés à sa présence. Puis de manière générale, en fait, accepter un nouvel élément de notre vie, que ce soit un nouveau phénomène ou un nouvel individu humain ou animal, ça va passer par une meilleure compréhension de cet élément, donc de qui est-il, comment vit-il, quelles sont ses habitudes, mais aussi quelles sont son histoire. D'ailleurs, dans les échanges avec le grand public, il y a énormément de questions qui concernent l'histoire du loup. Donc, on a déjà parlé un peu, combien il y en avait eu, comment ça se passait à l'époque, est-ce qu'ils étaient dangereux pour l'être humain, etc. Et ça, cet apport de l'histoire, c'est vraiment un élément qui a beaucoup intéressé le DEMNA quand on a discuté de mon projet de recherche, parce que si vous vous souvenez des actions du plan loup, la sensibilisation est vraiment un des grands axes du plan loup. Ça les a d'autant plus intéressé que ce point-là, la sensibilisation du grand public, en fait, c'est un point qu'ils savaient qu'ils n'arriveraient pas à mettre en œuvre entièrement par manque de temps et de moyens humains. Ils n'ont tout simplement pas d'historien dans leur service et l'engagement d'un historien n'était pas prévu dans le budget. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils ont surtout concentré leur travail sur la sensibilisation du public cible, à savoir les acteurs du monde rural et puis les personnes vivant dans les zones de présence permanente, donc là où on a des meutes, donc c'est les femmes en gros. Alors justement, sur cette sensibilisation, dans ce travail de sensibilisation, le DEMNA, il est vraiment régulièrement confronté à une question, c'est la question de la chasse du loup. Il est confronté même de deux façons dans leur travail. Le premier, c'est dans leurs échanges avec le grand public, où là, on a la question de finalement, pourquoi accepter la présence du loup alors que nos ancêtres l'ont exterminé, et s'ils l'ont fait, c'est peut-être pas pour rien. Et le second cas de figure, là, c'est plutôt dans vraiment leur cas de travail en tant qu'acteur en charge de la gestion d'une espèce, c'est l'impact de politique de régulation sur une espèce. Mais donc, si on prend le premier cas de figure, cet argument de « nos ancêtres n'ont pas exterminé le loup pour rien ». Mais pourquoi au juste l'ont-ils exterminé ? C'est une question, ça paraît évident, mais finalement, a-t-on vraiment une idée ? Alors, il faut savoir qu'au XVIIIe et XIXe siècle, le loup, dans la législation, il est considéré comme un nuisible. C'est pas la seule espèce, on en trouve d'autres, hein, comme la loutre, le renard et plein d'autres, même le pigeon ramier, par exemple, la pie, voilà. Alors, première question, sous-question pour répondre à la question principale, c'est qu'est-ce qu'un nuisible ? Comment est-ce que vous définiriez le nuisible ?
Ça crée des dommages matériels.
Ouais, donc on aurait la notion de nuisance. Alors, petit indice, c'est pas très gentil. Pour recevoir cette belle étiquette de nuisible, il faut répondre à trois critères. Pas d'autres idées ? J'avoue, elle est piège, parce que moi, quand on m'a posé la question, j'ai fait aussi, mais c'est une bonne question, mais j'en sais rien, en fait.
Il faut s'aventurer dans les villes, parce que tous les animaux que tu as cités, c'est des animaux qui vont dans les villes.
Non, ce n'est pas ça, parce que c'est vraiment le nuisible, c'est vraiment donc un statut juridique qui va permettre en fait de la mise en place d'un régime juridique spécifique qui va permettre d'ouvrir la chasse. La chasse étant au XVIIIe, XIXe siècle, comme aujourd'hui, une activité qui est strictement encadrée. Donc ce statut qui fait qu'on va pouvoir, par exemple, permettre d'ouvrir la chasse de certaines espèces à tout à chacun, ou sur des régions plus ouvertes. Par qui je commence ?
Un critère de nombre, j'imagine ?
Non.
Ne pas être utilisé par l'humain, donc les animaux exploités comme les vaches, etc.
Oui, effectivement, c'est effectivement une bonne réponse.
Un impact économique négatif ?
Oui, alors ça va devenir dans nuisance, mais effectivement, on a le premier critère, c'est déjà, il faut que ce soit un gibier, en fait. Mmh. Tout simplement, ça paraît évident, mais donc ça veut dire qu'un chien n'est pas considéré comme du gibier, ce ne sera pas un nuisible. Le deuxième élément, ce sont les nuisances. Donc dans le cas du loup, effectivement, on a trois grandes nuisances. Première, qui est un peu secondaire, c'est qu'il n'est pas considéré comme utile pour l'être humain. Donc sa fourrure, elle a peu de valeur par rapport à d'autres, et sa chair, elle n'est pas consommée. Donc là, c'est pas intéressant. Et le deuxième élément, ben, on a une concurrence économique avec ses prédations sur le bétail, et évidemment, le risque de danger pour l'être humain. Et puis un troisième facteur, et ça, c'est vraiment... Enfin, qui vont gagner des millions ? Est-ce que vous auriez une idée ? Alors, un petit indice, si on prend le loup, le sanglier et les cervidés, ils ont un point commun, c'est de générer des nuisances. Donc, sanglier, cervidé, ça crée beaucoup de nuisances pour l'agriculture, sur les forêts, donc c'est un frein économique pour l'agriculture ou l'exploitation forestière. Ils ont un point commun, les nuisances, et pourtant, il n'y a que le loup qui est considéré comme un nuisible.
Parce que le loup n'a pas de prédateur.
Non, parce que la loutre a un prédateur, elle est nuisible. Hein.
Ils font peur.
Ils peuvent manger.
Bah, la loutre ne mange pas encore d'êtres humains.
La nuisance régulière ?
Non, parce que ça, c'est... Le cervidé fait des nuisances régulières et n'est pas considéré comme un nuisible. Hein. Voilà.
Alors, ça fait beaucoup de bébés.
L'intérêt commun. C'est-à-dire que la société va décider que dans l'intérêt commun, il faut réguler ou exterminer une espèce. Donc ça montre en fait toute la subjectivité de cette étiquette de nuisible, déjà par la perception de la nuisance, hein, puisque la nuisance va dépendre de tout à chacun, et bah, évidemment quand une société décide qu'une espèce l'est ou ne l'est pas. Donc c'est pour ça que dans l'histoire ou dans le monde, on va avoir une même espèce qui dans certaines régions va être considérée comme nuisible, dans d'autres pas, ou dans une même région, à certaines époques, il sera nuisible, et à d'autres, il ne sera pas. Alors pourquoi le cervidé et le sanglier n'est pas nuisible ? Est-ce que vous avez une idée ? Maintenant, vous savez que c'est pour l'intérêt commun.
On peut les manger.
Non. C'est parce que ceux qui rédigent les lois à l'époque, c'est ceux qui ont sont détenteurs du privilège ou du droit de chasse. Alors pour un chasseur, le sanglier et le cervidé, c'est évidemment un gibier de choix et il faut au contraire les préserver. Alors quand on regarde ces trois critères et qu'on s'intéresse maintenant à finalement pourquoi tout un chacun, monsieur, madame, allait chasser le loup, ou juste pourquoi est-ce qu'une personne décidait d'aller chasser un loup et puis le présenter à... la commune du coin pour avoir une prime. Ce qui est intéressant quand on analyse ces motivations, c'est qu'on ne retrouve jamais cet intérêt commun. Le fait de vouloir contribuer à l'effort général pour lutter contre le loup. En fait, dans les motivations, à l'époque, on va en retrouver trois grandes. On va avoir là une réaction de défense suite à une nuisance, hein, à la prévention pour éviter la nuisance. Et puis là, ça concerne évidemment spécifiquement les primes, c'est l'opportunité pécuniaire. Si on prend les primes, les demandes de primes, les deux grandes motivations, ça va être évidemment une réaction de défense. Donc là, c'est vraiment quand en fait la tolérance à la nuisance va être dépassée, la communauté locale va décider que là, stop, il faut faire quelque chose. Et puis on a la prévention, donc là c'était typiquement à l'approche de l'hiver, où on va avoir souvent un rapprochement des loups, des zones d'activité ou de vie humaine, pour pallier la raréfaction des proies naturelles. Et donc là, on pourrait avoir des demandes de battue pour un peu anticiper. Et puis dans le cas des primes, là vraiment la grosse motivation, c'est l'argent. Mais ne sont quand même pas si vénales que ça à l'époque, c'est plutôt l'opportunité d'une prime. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chasseurs qui partaient le dimanche matin en se disant « Allez, je vais aller me faire un peu d'argent, on va chasser le loup ». En fait, quasiment à chaque fois, ça se fait au détour d'une rencontre, juste ben, on saisit cette opportunité d'avoir d'une prime. Mais donc, on ne retrouve pas la volonté à l'échelle individuelle de vraiment lutter contre le loup dans l'objectif de ne plus en avoir. Ce qui soutient l'hypothèse développée et soutenue par pas mal d'historiens du loup, notamment français, c'est finalement le risque de nuisance. À l'époque, c'était quelque chose qui était intégré au niveau individuel, mais rejeté collectivement. Ce qui fait que, d'un autre côté, on n'a pas cet effort de cette... le fait de soi-même aller décider de participer à l'effort collectif, mais par contre, on n'a jamais eu cette remise en cause du processus d'extinction, d'extermination du loup. Donc le deuxième élément, c'est la question de la chasse du loup à laquelle est confrontée le DEMNA, et de manière générale, les acteurs en charge de la gestion d'une espèce, c'est évidemment l'impact des politiques de régulation sur une espèce. Alors aujourd'hui, on présente encore très souvent la disparition du loup comme étant causée principalement, voire uniquement, par la chasse, et plus spécifiquement par l'intensification de cette chasse au XIXe siècle. Donc pour rappel, cette disparition, elle se déroule vraiment dans les années 1920, mais avec une disparition des populations endémiques de loups qui est antérieure entre les années 1870 et 1890. Comment on le sait? C'est parce qu'en fait, à partir de 1875, on n'a plus de capture de louveteaux dans les sources administratives qui indiquent en fait qu'on a des populations qui ne sont déjà plus aptes à se reproduire, à se renouveler. Donc voilà, pour le comprendre, le loup, c'est une espérance de vie d'environ une dizaine d'années à l'état sauvage. Alors cette disparition, elle s'est faite progressivement du nord vers le sud de la Belgique et de l'ouest vers l'est. Ainsi, au début du XVIIIe siècle, on n'a déjà plus de loups en Flandre occidentale. Parce qu'on a vraiment jusque-là des loups présents dans tout l'espace belge. On a même des traces de capture de loups dans des dunes maritimes et des dunes intérieures. Pour montrer à quel point le loup est une espèce qui a vraiment une grande capacité d'adaptation. Alors cet élément, il est quand même interpellant. Ça signifierait finalement, si on a une disparition qui est antérieure à l'intensification des plans de loups, de lutte, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin peut-être d'une intensification de la chasse pour réussir à obtenir une disparition du loup. On aurait affaire à peut-être d'autres facteurs. Donc finalement, la meilleure solution pour s'en assurer, c'est de se demander est-ce que ces politiques de lutte étaient vraiment si efficaces que ça. Bon, la réponse est plutôt mitigée. Alors donc, comme je vous l'ai dit au tout début, on a trois grands outils. On a les primes, les battues, la louveterie. La louveterie, je n'ai pas trop en parlé parce que c'est vraiment juste 10 années au 18e, 19e siècle, donc elle n'a pas eu un grand impact. Mais si on prend les battues, donc la plupart du temps, la battue, elle n'a pas trop de résultats, ou alors on a un, deux loups, mais bon, c'est beaucoup de moyens pour peu de résultats, car son principal défaut, il y en a beaucoup, mais le principal, à l'époque, c'est la procédure administrative. Donc la battue, c'était, on ne pouvait pas décider comme ça au niveau local, du village, décider d'organiser une battue, parce qu'on a eu plusieurs attaques sur les troupeaux. Il fallait demander aux autorités provinciales la possibilité de pouvoir en faire une, c'était strictement encadré. Et voilà tout ce qu'il fallait faire avant d'avoir une battue, c'est la période française, entre 1795 et 1815, donc c'est quand même une période où on a eu beaucoup de chasse. De loups, où c'est vraiment là une organisation beaucoup plus rationnelle de ces plans de loups, cette centralisation, etc. Alors, les Hollandais qui leur succèdent en 1815-1830 essayent de rationaliser un peu tout ça, mais ça reste très long. Trop long pour un loup, parce que le loup, c'est une espèce très mobile, il faut vraiment intervenir directement. Ce qui fait que généralement, le loup, il n'était plus là, et en plus de ça, les autorités provinciales, en fait, généralement, déterminaient la date à l'avance. Donc le jour venu, soit la météo n'était pas clémente, soit les loups, ils ne se trouvaient pas du tout à ce moment-là dans la région décidée. Donc voilà. Alors, les primes, elles ont été quand même plus efficaces. Hein. C'est vraiment elles qu'on doit la majorité des chasses de loups. Mais si elles ont été efficaces, elles auraient pu l'être plus encore. Vraiment, leur potentiel n'a pas été exploité pour des raisons qu'on connaît encore tous aujourd'hui. Ouais, des raisons financières, évidemment. Hein. En fait, on on avait des primes. Ça, c'était les primes qui étaient offertes entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Donc, c'est traduit en nombre de jours de travail pour un ouvrier. Donc, ça peut paraître intéressant. Hein, si on regarde là, on a quand même plus d'un mois de travail pour un loup. On peut se dire, c'est sympa, on tue un loup et puis on a un mois de congé. Même à la fin, ici, bon, la Belgique n'a pas trop révisé, n'a pas indexé les montants des primes, ce qui fait que ça a pas mal diminué, ça a pu changer depuis plus de 40 ans, mais on a quand même quasiment, pour une louve, une semaine de travail si on arrive à en capturer une. Alors comme ça, ça paraît très alléchant. Dans la pratique, c'était pas si alléchant que ça, parce qu'en fait, la récompense était en grande partie absorbée par les trajets. Car la prime ne venait pas jusqu'à vous, il fallait aller la chercher au chef-lieu de la province ou au représentant, mais ça représentait déjà des trajets de plusieurs dizaines de kilomètres, donc ça représente minimum une demi-journée de travail. Pour ceux qui étaient au fin fond du Luxembourg, ça représentait parfois plus d'une journée de marche, donc ça veut dire qu'il fallait bloquer une journée, voire plus, quand c'est comme ça, ben, réserver l'hôtel, manger, et à l'époque, on n'avait évidemment pas de congé payé, donc finalement, on a une prime... Voilà, et puis quand les travaux des champs, ben, ça n'attend pas. Donc c'était pas si efficace que ça. Donc alors, ça n'a pas complètement été efficace. La chasse est bien un des facteurs qui a causé la disparition du loup, mais ce n'est pas l'unique ni le principal loup. Sa principale action, ça a été en fait d'accélérer cette disparition. Mais ça signifie qu'on aurait d'autres facteurs qui ont contribué à la disparition du loup, notamment donc, dans cette région, par exemple de Flandre occidentale, où on n'a pas eu besoin vraiment de mettre en place par l'État un effort de lutte pour avoir cette disparition. Est-ce que vous avez une idée des autres facteurs qui auraient pu menacer le loup ?
L'urbanisation ?
Oui.
Même, la fragmentation de l'habitat de manière générale.
Oui, donc plutôt l'habitat. L'habitat, l'aménagement du territoire, on va dire, pour être très global. Hein.
Est-ce qu'il y a eu une maladie ?
Non, non, non.
La chasse du...
De ses proies.
Oui, après c'est une bonne réponse. Enfin, elle s'inclut.
Le trafic
routier. Au 19e siècle. Bah. Non, on était toujours sur le cheval et la charrette. On y était toujours... Ok, bon, en fait, il y en a plusieurs. Vous avez cité le premier. C'est qu'au XIXe siècle, on a en fait deux phénomènes qui se passent. C'est qu'on a une hausse démographique et un développement économique des États. Donc, cette conséquence d'avoir une population qui grandit et un développement des activités économiques, c'est qu'on va avoir une diminution, effectivement, de la surface des espaces incultes et sauvages, et en parallèle, une augmentation de la présence humaine dans les milieux naturels restants. Ça a pour conséquence, évidemment, c'est que le loup, il se retrouve avec une diminution de ses zones de refuge, zones de vie, mais aussi zones de chasse, et également, on en a parlé, une diminution de ses proies naturelles, des proies sauvages, ce qui a pour conséquence, c'est que le loup est plus vulnérable, plus facilement chassable, et en plus de ça, il va devoir reporter en partie sa prédation sur le bétail, ce qui va évidemment être dans un cercle vicieux qui engendre plus de conflits avec les populations. Or, comme je viens de le dire, on est dans vraiment un processus de développement économique des États. Ça concerne évidemment le secteur de l'élevage. Par exemple, on va avoir l'introduction de béliers mérinos, qui est un bélier coûteux, mais aussi le développement de tout, notamment le secteur industriel. Donc évidemment, dans ce contexte de développement économique, le coût des pertes il va augmenter. Perdre un bélier mérinos qui coûte vraiment très cher, dans lequel on a investi, ça devient beaucoup moins supportable. Donc ce problème concerne les vaches, mais pas que. Si vous pensez au transport, comme j'ai dit, on est toujours avec des charrettes tirées par des chevaux, des ânes, des bœufs, vous les perdez, ben en fait, il n'y a plus de transport. Donc c'est une activité qui est pénalisée. Si vous pensez plus loin, ben, l'industriel qui a besoin de sa matière première, la matière première, elle est bloquée, ça ralentit l'activité économique. Donc pour cette raison, le loup, il va être considéré comme un frein économique et même comme un marqueur d'arriération. C'est-à-dire qu'à l'époque, on va considérer qu'un pays qui se libère du loup est un État moderne. Alors le deuxième facteur, c'est peut-être le plus compliqué à comprendre, c'est l'image, la perception du loup. Comme c'est super compliqué et surtout il me faudrait une conférence entière pour en parler, je ne vais vraiment que le survoler pour vous donner un peu des clés de compréhension et après on pourra approfondir pendant la séance de questions-réponses. Alors pour comprendre l'image du loup ou d'un animal en général, il faut comprendre de quoi elle se compose. C'est un peu comme un un petit cocktail en fait, mais quand on vous le présente, encore tout beau, là, quand on ne l'a pas encore mélangé. Donc si on prend par exemple le cas de l'image du loup mangeur d'hommes, donc on retrouve dans le chapeau rouge, trois petits cochons, enfin c'est des cochons rouges. Enfin voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette image? On va avoir une première couche à la base, c'est loup réel. C'est-à-dire c'est une image qui va s'inspirer de faits réels, comme nous, nos films, qui s'inspirent d'un événement de nos vies quotidiennes. Donc si on prend le petit chapeau rouge, c'est un conte en fait qui date de l'an 1000, qui a été repopularisé au XVIIe siècle par Charles Perrault. Et qu'est-ce qui se passe à ces deux périodes, l'an 1000 et le XVIIe siècle en France? C'est qu'on va avoir plusieurs foyers d'attaque, comme la bête du Gévaudan. Donc là, on a quelque chose qui s'inspire d'une réalité. Et puis sur ce loup, cette couche de réalité, on va venir saupoudrer un peu de symbolique. Donc c'est toute la symbolique associée à un animal. Le lion, il est courageux, il est fort. Le loup, un peu moins positif, hein. C'est voilà, tout ce qui est mensonge, la cruauté, le vol, la lâcheté, etc. Donc, finalement, dans l'histoire, on va se créer, ben, le loup, il va endosser ses valeurs. Et puis enfin, on a le loup fictif, donc c'est toute cette image, qui, c'est notre imaginaire collectif, qui va être nourri par tout ce qui compte, tout ce qui est fable, imaginaire, etc. Donc, face à cette image, donc au XIXe siècle, on a ces trois couches, hein. Et donc, ce qui fait que l'expérience, le savoir sur le loup, il va être acquis de deux façons différentes, par l'expérience, par la rencontre avec le loup, par le récit de grand-maman ou du berger voisin qui a rencontré le loup, etc. Et puis par donc cet imaginaire. Et la conséquence, et nous, pardon, nous sommes concernés, bien, c'est que quand le loup disparaît, l'expérience disparaît avec elle, et donc le savoir ne se fait que plus par la transmission de cette image qui nous reste. Donc ça va avoir pour conséquence, notamment dans le cas du loup mangeur d'hommes, qu'on va avoir progressivement un amalgame entre les loups, les attaques de loups par des loups sains et des attaques de loups par des loups enragés. Souvent, les attaques de loups avec plein de victimes, etc. Dans nos récits où on a un loup sain, en fait, ça correspond à une attaque de loups enragés. Voilà. Alors, on a parlé ici donc, de deux abords essentiels. Apaiser le débat, on va dire, et puis sensibiliser. Mais l'histoire, elle peut aussi jouer un rôle pour vraiment contribuer en fait, à la gestion de l'espèce, comment en apportant des pistes de solutions, voire de réflexion. Donc, c'est quand même un élément assez intéressant. Alors, j'ai vraiment pris un exemple pratique pour commencer, c'est la question de la vulnérabilité des éleveurs, de nos éleveurs aujourd'hui, face aux nuisances du loup. Alors, pour, en histoire, pour un peu étudier cette question de la relation, de la cohabitation entre l'homme et le loup, un outil d'analyse qu'on utilise et qu'on retrouve notamment dans l'étude des risques et des catastrophes naturelles, c'est une notion de vulnérabilité et de résilience. On entend quand même souvent parler. Donc l'idée, en fait, c'est, si on prend le cas des éleveurs, c'est moins en plus un éleveur sera résilient, donc capable de se remettre, on va dire, des nuisances, de les absorber, moins il sera vulnérable et plus il sera tolérant à la nuisance. Donc ça, c'est une question très intéressante pour mieux comprendre la relation entre l'homme et le loup à l'époque. Alors malheureusement, l'étudier ne nous permet pas aujourd'hui d'apporter une solution toute faite à nos éleveurs en disant, mais voilà, pour être plus résilient, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'évidemment, la situation est complètement différente entre celle d'aujourd'hui et celle du XIXe siècle. Néanmoins, cette démarche donc, de réfléchir sur la vulnérabilité des éleveurs, ça souligne une piste d'action, à savoir agir sur la vulnérabilité des éleveurs face au loup. Alors je suis d'accord, quand je le dis comme ça, ça paraît enfoncer une porte mais grande ouverte là. Pourtant, quand on regarde un peu ce qu'il fait, finalement, c'est une question qui est en fait assez peu abordée dans le domaine de la recherche, mais aussi même dans le domaine public. On a assez peu de projets politiques qui ont vraiment pour objectif de renforcer les éleveurs sur le plan financier, en tout cas de permettre d'avoir un modèle qui leur permette d'absorber les coûts nouveaux amenés par le retour du loup. Ces coûts, c'est évidemment géré par les pertes d'animaux, mais aussi c'est tous les coûts causés par évidemment l'installation de moyens de protection, donc c'est clôture, chiens de protection, leur entretien, etc. Si on prend par exemple le cas du plan loup, on a des mesures qui visent surtout la protection des troupeaux, et puis a priori pour compenser, mais on n'a pas dedans une ouverture à vraiment une réflexion sur finalement le modèle de l'élevage, sur comment faire pour que ces éleveurs puissent cohabiter avec le loup et finalement être en mesure d'avoir les épaules suffisamment solides pour pouvoir accepter et supporter ce risque. Voilà pour une piste de réflexion qui peut être mise en lumière par l'histoire. Alors, de manière plus générale, l'analyse historique, elle nous montre bien que le problème des nuisances et de la tension, des tensions autour du loup, c'est vraiment un problème multifactoriel, mais qui donc nécessite d'apporter une réponse multidimensionnelle à l'échelle de la société, vraiment d'adopter une démarche systémique, ce qu'on a tendance à quand même, pour l'instant, on peut faire. Hein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des pistes de réflexion finalement pour nos acteurs politiques et toutes les administrations ou associations derrière. Ce qui nous amène au dernier rapport de l'histoire. L'histoire en fait elle peut aussi jouer un rôle dans la construction des savoirs sur le loup, donc sur sa biologie, sur son éthologie, au même titre que les deux disciplines que j'ai citées, la biologie et l'éthologie. Et ça, c'est assez fondamental comme apport, parce que seule une bonne connaissance de l'espèce permet de pouvoir mettre en place une gestion durable. Or, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est qu'en fait, le loup reste une espèce assez méconnue pour deux raisons. C'est que l'éthologie, c'est vraiment une discipline assez jeune. Hein. Elle se forme à partir des années 1920 en tant que telle. Et puis, évidemment, le retour du loup en Europe occidentale et surtout en Belgique, ben, il est encore beaucoup plus. Ce qui fait que la plupart des études, pour l'instant, sur le loup, elles portent sur des territoires complètement différents de ceux de la Belgique, dans laquelle lesquels les loups ont développé des comportements différents. Donc c'est par exemple les États-Unis, l'Europe de l'Est, ou les zones montagneuses d'Italie et de France. Et donc là, il y a vraiment un besoin de données que l'histoire peut en partie combler. Alors, un exemple de données, ça concerne la présence du loup, précisément la présence passée. Parce que ça, c'est une question qui intéresse beaucoup, mais qui est il faut prendre beaucoup de précautions, comme vous allez voir, pour en discuter. Il y a un gros travail, ça nous ramène du coup à l'apport numéro 2 de sensibilisation. Alors, un premier rapport, c'est qu'on peut cartographier les zones de rencontre entre les humains et les loups au XVIIIe et XIXe siècle grâce aux sources administratives. Si on reprend le certificat que je vous ai montré tout au début, on peut voir qu'on a la mention du lieu de la chasse et la date de la chasse. Ça, ce sont vraiment deux données qui apparaissent systématiquement dans les certificats et procès-verbaux battus, même ceux où le maire était le plus synthétique possible et avare en détail. Et donc ça va nous permettre de faire des cartes de ce type. Donc ça, c'est une carte des loups qui ont été abattus dans les deux Luxembourg entre 1815 et 1830. Alors cette carte, elle ne peut pas être utilisée telle qu'elle. Plus précisément, on ne peut pas la transposer à la situation actuelle en disant « voilà, on va avoir des loups dans ces régions-là et on aura autant de loups », tout simplement parce qu'on a affaire à un territoire qui est complètement différent aujourd'hui. On n'a évidemment pas du tout le même réseau routier, déjà on n'a pas de voiture. Or, c'est la première cause de mortalité chez le loup. Donc voilà, ça c'est vraiment, comme je disais, une carte à utiliser de manière critique. Et puis donc, évidemment, quand on regarde cette carte, je suppose que tu es un peu frappé par le nombre de points qu'il y a, surtout que voilà, un point, là, c'est-à-dire qu'on a 25 loups qui ont été tués en 15 ans. Donc ça pose la question finalement du nombre de loups qu'on a pu avoir et qu'on pourrait avoir. Alors j'anticipe déjà le « on pourrait avoir », c'est comme pour les cartes, il est impossible de dire où on aurait des loups en Belgique et combien on en aurait. Parce qu'on a affaire à un territoire complètement différent, on ne peut être que dans l'ordre de l'hypothétique, et seul l'avenir nous permettra de nous dire si ces hypothèses sont correctes ou pas. Alors cette question du nombre de loups, donc entre le milieu 18e siècle, fin 19e siècle plus précisément, entre dans les régions de Namur, Luxembourg, les deux Luxembourg et Liège, on a 2538 loups qui ont été abattus, adultes et jeunes confondus. Je prends les chiffres en détail. C'est ça. Parmi ces 2538 loups, on a 1387 adultes et 817 jeunes, donc 6817 louveteaux qui ont été abattus via donc, ce mécanisme de prime et de battus. Alors la question, c'est ce chiffre, vous en faites quoi, vous? Vous le prenez comme ça ou vous êtes un peu méfiant?
C'est que ceux qui sont rapportés.
Ouais, donc on a une prudence critique ici. Effectivement, on a trois problèmes critiques avec ce chiffre. Donc, demain, pas d'article sud presse en disant qu'il y avait 2500. Premier problème critique, on l'a dit, c'est évidemment un minimum de loups tués. Il y a tous ceux dont la trace n'a pas été consignée, parce que flemme de la porter à la mairie d'en avoir une prime, surtout puisqu'on était payé, ou parce que les archives ont été détruites. Donc, j'ai pas cité le Hainaut dans mon étude, parce qu'en fait, toutes les archives quasiment ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour vous donner une meilleure idée, voici la répartition des données par période et par territoire. Donc, on voit que pour les périodes françaises et hollandaises, on a beaucoup de données, en particulier pour les deux Luxembourg. Et c'est pas uniquement parce qu'on avait plus de loups dans ces régions ou à ces périodes, c'est aussi parce qu'on a une très bonne conservation des sources. Ancien régime très compliqué, et alors le deuxième moitié du XIXe siècle, là, c'est... j'ai perdu beaucoup de cheveux, vous avez vraiment pour les trouver. Donc voilà, alors second problème, c'est que c'est un nombre minimum, oula, tout court, hein. Mais parce qu'à côté de ces loups tués, il y a évidemment tous ceux qui ont été manqués, et tous ceux qui n'ont jamais croisé la route d'un être humain. Et c'est un minimum, ce nombre, mais ça peut être aussi un maximum. Bah, je suis gentille, je ne vais pas vous faire deviner. C'est parce qu'en fait, dans ce nombre, on a à la fois les loups installés, des loups dispersants. Je suppose que je fais un petit point d'explication sur les loups dispersants. Donc en fait, un loup installé, c'est un loup qui a son territoire, qui a sa meute. Donc c'est Akela, Feu, Maxima, mais je ne connais pas les noms des autres, dans nos régions. Et puis les loups dispersants, ce sont des loups à la recherche d'un territoire qui ne sont en fait que de passage, donc ça peut être vraiment de l'ordre de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, maximum quelques mois, qui sont assez furtifs. Et évidemment, face à un loup, c'est impossible de déterminer si c'est un loup installé ou un loup de passage. Le seul moyen, c'est de faire un suivi génétique. Bon, je ne vais pas vous expliquer qu'au XIXe siècle, ce n'était pas possible. Hein. Donc finalement, la question, c'est quelle est la part de loups dispersants dans ces 2538 loups qui peut être importante. Si on regarde le cas de la Wallonie, depuis 2016, on a eu 35 loups dispersants, puisque les chiffres ont évolué, et on a certainement beaucoup plus, parce que souvent, ils ne sont pas détectés, en fait. Donc finalement, 2538 loups, c'est un indicateur de présence plus qu'un nombre défini. Donc ça, c'est le premier type de données qu'on peut apporter. Mais l'histoire, elle va permettre aussi de répondre aux questions des éthologues, où là, donc, comme je disais, il y a un besoin de données pour avoir une idée de ce que ça pourrait être, mais aussi pour pouvoir comparer, en fait, à la situation actuelle, notamment voir si la disparition de l'espèce a eu un impact sur son évolution, ou voir aussi si on avait des situations différentes. Par exemple, une demande qui m'a été faite, c'est de faire une étude morphologique des loups naturalisés pour comparer avec les loups, celles des loups d'aujourd'hui. Et la question derrière, est-ce qu'on avait des loups qui étaient de la taille du petit poney ou est-ce qu'on avait l'éléphant? Et alors, parce qu'évidemment, la relation alors n'est pas du tout la même avec l'animal. Il n'y a pas de loup, éléphant, loup, poney, on est plus ou moins dans la même dimension qu'aujourd'hui. Une autre demande, c'était l'analyse des périodes de reproduction pour voir si les naissances de louveteaux se faisaient plus ou moins à la même saison qu'aujourd'hui, etc. Et puis enfin, le dernier projet, on pourra en reparler dans les questions de réponse, ça parle, ce sont des analyses paléogénétiques, donc c'est les traces de loup matériel que je vous ai montré, où en fait on les a fait analyser, faire donc des analyses d'ADN anciens pour déterminer le profil génétique des populations de loups qui ont vécu aujourd'hui, à l'époque, et comparer celles d'aujourd'hui, et voir notamment d'où venaient ces loups qui se sont installés en Wallonie. Donc voilà, j'arrive à la conclusion. J'espère avoir réussi à vous montrer via cette présentation. Finalement, la recherche fondamentale en histoire, elle joue en fait un rôle hein, dans la gestion des risques et des enjeux sociétaux actuels. Donc son rôle, ça va être de sensibiliser, d'apporter de la hauteur au débat, mais pas que. On a aussi une contribution via l'ouverture de pistes de réflexion, voire de solutions dans des domaines finalement qui sont souvent considérés comme réservés aux sciences de la vie. Hein. Le cas du loup en est un bel exemple, mais je pourrais encore en citer d'autres. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup. La présentation était vraiment chouette. Est-ce que une façon en fait de faire la différence entre les loups dispersants et les loups bien installés, ce serait pas tout simplement de voir où on avait plutôt l'abattage de louveteaux, parce que je suppose qu'eux ne se baladent pas, enfin ils font pas des kilomètres et des kilomètres avec des louveteaux a priori, je suppose. Enfin, je connais pas le loup.
Ouais, c'est effectivement une des je l'ai pas montré ici, mais c'est effectivement une des solutions utilisées pour plutôt alors un loup, mais c'est vraiment un risque et péril pour effectivement traverser un territoire près des louveteaux, mais s'il est surveillé, c'est vraiment qu'il a beaucoup de chance. Mais effectivement, on utilise, c'est donc la carte que je vous ai montrée, on peut isoler les chasses de louves pleines et de louveteaux pour identifier les zones de présence permanente du loup. Mais alors, ça permet pas, dans le cas d'un loup adulte, si je prends par exemple un loup, de déterminer si ce loup ailleurs était un loup installé, mais son territoire s'étendait jusque-là, parce que un territoire des loups, ça peut aller de 100 km² à 400 selon le territoire, la taille de la densité de proie sauvage, etc. Donc là, on est bloqué. Par contre, ça permet d'identifier plutôt, comment dire, des couloirs, donc en tout cas de dispersion, ou des zones où on n'a pas des... c'est pas le cœur du territoire, et là, ce sont des zones qui sont caractérisées uniquement par des prises de loups adultes, où on n'a pas de louveteaux. Mais donc voilà. Mais donc ça ne permet pas de déterminer si chaque loup est un loup installé ou un loup dispersant. Ça peut avoir une idée, quoi.
Est-ce que le fait que on parle de ces loups, du retour de loups en Wallonie, est-ce que ça risque d'attirer beaucoup de gens qui vont aller voir dans la forêt s'ils peuvent observer les loups, et du coup est-ce que ça risque de déranger l'introduction?
Oui, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs mesures qui sont prises. Par exemple, la localisation des meutes, elle n'est pas du tout communiquée, hein, elle est gardée secrète. Quand vous regardez au JT et qu'ils interviewent Demna, en fait, ils ne sont pas du tout dans les failles. Ils sont dans un endroit qui pourrait ressembler, mais ils ne sont pas du tout à la bonne localisation. Donc il y a des gardes forestiers, etc., qui protègent pour effectivement éviter qu'ils soient dérangés. Donc après, quand on n'a pas beaucoup de loups, en tout cas, je n'ai pas encore entendu qu'en tout cas, qu'il y a un tourisme qui s'est fait, par exemple, comme ça peut se faire au Yellowstone, peut-être maintenant peut-être dans le côté des Alpes françaises ou quoi, il n'y a pas, je pense, assez de meutes, et comme elles sont quand même assez reculées. Dans le cas, par exemple, du Limbourg, il est déjà dans un parc militaire, donc c'est déjà une réserve militaire, donc c'est déjà inaccessible. Voilà. Donc, oui, il y en a qui pourraient, mais c'est quand même surveillé.
En fait, au début, tu as dit qu'en 2025, il allait y avoir un bilan ou un renouvellement du plan loup. Et si j'ai bien compris, c'est gouvernemental. Et du coup, je me demandais si la couleur, l'orientation politique, puisqu'on sait que l'écologie n'est pas vraiment la priorité du gouvernement actuel, si ça allait éventuellement jouer dans les budgets alloués à la réintroduction du loup. Enfin, quel impact, quoi,
Alors, je t'avoue que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de communication sur le plan loup. Je ne sais même pas. Peut-être qu'ils vont décider de prolonger d'un an ou pas, je ne sais pas du tout où ils en sont. Petit point quand même de précision, donc le loup, il n'a pas été réintroduit. C'est vraiment un retour naturel. L'être humain n'est pas du tout derrière. Après, je ne pense pas qu'il... Parce que finalement, les budgets financiers qu'il y a dans le plan loup, c'est surtout les primes pour les éleveurs. Hein. Donc là, je pense pas qu'ils vont les diminuer, c'est quand même... Enfin, je vais pas faire le bilan de la situation de l'élevage en ce moment, qui est quand même assez compliquée. Donc ça, je pense pas qu'a priori, ils vont diminuer. En tout cas, ils ont pas encore communiqué dessus. Et finalement, en fait, le suivi des loups, il se fait aussi parce que... donc pour avoir une prime, hein, notamment dans le cas d'une attaque, chaque fois, il y a une analyse génétique qui est faite pour déterminer si c'est du loup ou du chien, et alors ça va dans une base de données européenne qui est utilisée pour identifier les loups, et c'est comme ça qu'on peut suivre le passage d'un loup et des fois reconstituer leur itinéraire. Donc finalement, les budgets sont quand même liés pour la protection et le suivi du loup, quoi.
Bonjour, merci beaucoup pour la présentation très intéressante. Je me demandais si on n'avait pas des exemples d'autres pays dans la cohabitation avec les loups et surtout vis-à-vis des agriculteurs. Voilà. Qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays en fait ?
Ouais. En fait, c'est très variable. Hein. Par exemple, on a le cas de la France où là, c'est quand même, ils n'ont pas tous la même position. Hein. Par exemple, en France, il y a les tirs de prélèvement, donc il y a un quota décidé par le gouvernement. Je me souviens plus de pourcent, mais donc X loups par an peuvent être abattus. Ils ont toujours beaucoup de débats. Alors des régions où ça se passe bien, je vous avoue qu'en fait c'est difficile pour moi de le dire parce que des fois on présente et puis je rencontre des loups qui me disent « Ah non, c'est faux, en Espagne ça se passe super bien, c'est la galère » et d'autres pas. Mais récemment, j'ai lu un article par exemple, qui est pas un exemple de cohabitation qui se fait, mais plutôt qui est inspirant, c'est au Mexique où en fait il y a des chercheurs qui ont travaillé en collaboration avec des éleveurs pour leur permettre justement de mieux accepter la présence du loup. Et ce qu'ils ont fait par exemple, c'est qu'ils les ont accompagnés pour améliorer leur modèle économique, leur modèle d'élevage. Notamment, ils les auront fait passer par du bio. Etc. Et finalement, ils se retrouvent avec des éleveurs qui, certains, étaient réticents et finalement qui ont accepté le loup parce qu'ils se sont rendus compte, parce que c'est souvent des éleveurs qui ne sont pas, qui ont d'autres activités sur le côté, que finalement, des fois, le loup pouvait les aider en régulant d'autres prédateurs pour d'autres, ce qui est fouine, etc., pour d'autres activités. Et, mais alors, aussi, un autre élément qu'en fait, nous, on n'a plus, c'est cette question du risque. C'est-à-dire que nous, il faut réaccepter ce risque dans nos vies. Et là, on a quand même beaucoup de pays d'exemple comme les États-Unis ou le Mexique, où en fait, le risque n'est jamais parti totalement parce qu'ils ont d'autres prédateurs. Et donc, un des témoignages d'éleveurs disait finalement qu'il n'était pas trop gêné par le loup parce qu'il se rendait compte qu'il faisait des dégâts moins conséquents que d'autres, comme les coyotes, etc. Donc voilà, mais donc ça, c'est quand même un cas d'étude qui est assez intéressant. Un autre exemple, c'est le Portugal où le loup n'a en fait jamais complètement disparu. Où là, je pense que, enfin, après c'est un peu comme chez nous, il y a certains éleveurs qui s'en accommodent et qui acceptent en fait ce risque, et d'autres évidemment qui pour des raisons soit qui leur sont économiques ou plutôt idéologiques, qui ne le sont pas. Donc voilà.
Merci beaucoup, c'était super intéressant. Est-ce qu'il y a des, tu as montré les chiffres de très bas d'ailleurs sur les personnes qui ont été attaquées, mais est-ce qu'il y a des chiffres sur combien de moutons, par exemple, par éleveur sont attaqués par un loup ? Parce que moi, je ne me rends pas très bien compte et je n'élève pas de moutons, donc je me dis, donc je me dis peut-être que je ne me rends pas compte, en fait. Mais donc, est-ce que là, il y a des chiffres ? C'est quoi l'impact d'un loup sur...
Oui. Alors, c'est assez difficile de donner un chiffre pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'à certaines périodes, 10 moutons, ce sera rien. Et pour d'autres périodes plus difficiles, 10 moutons, ce sera beaucoup. Et pour même période, pour un gros éleveur qui est très riche, 10 moutons, c'est pas grand-chose. Pour un qui dépense son petit troupeau, évidemment, ça l'est beaucoup. Donc, il y a une difficulté, c'est que des fois, le chiffre n'est pas très parlant. Et aussi, la deuxième raison, c'est que je ne peux pas vous donner le chiffre parce que c'est difficile de quantifier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a des plaintes de perte d'animaux, généralement, ça apparaît dans les procès-verbaux, dans les demandes de battue. Mais donc, les demandes de battue, il fallait en fait réussir à convaincre les autorités qui étaient quand même assez réticentes d'avoir un groupe d'hommes armés, surtout pendant la période française, où les Français, ils sont arrivés ici, on est quand même dans un contexte un peu de guerre et de domination, donc il y a ce côté de sécurité publique. Aussi, ils avaient peur que ce soit une excuse pour faire, en fait... chasser du gibier, de braconnage. Donc, ce qui fait que c'est difficile. En fait, ils pouvaient avoir tendance dans leur récit à un peu surévaluer des gants en montrant bon, c'est super urgent, surtout que c'est super lent, là, il faut absolument qu'on ait une réponse rapide.
J'ai vendu 50 moutons.
Oui, voilà. Après, vraiment, parce que des fois, il y a une demande et la réponse arrive un mois après. Quoi. Donc, c'est ça qui est assez difficile à évaluer. Alors, par rapport au nombre de moutons qui sont tués, en fait, à nouveau, c'est difficile de comparer aussi aujourd'hui, parce qu'aussi, au 18e et première moitié 19e siècle, surtout, on est dans un mode d'élevage qui est complètement différent, à savoir que Contrairement aujourd'hui, on n'a pas un troupeau qui est parqué dans une prairie, qui est avec une clôture. Donc souvent, c'est tous les animaux du village qui étaient tous regroupés, et puis on avait le berger du village qui l'emmenait faire ce qu'on appelle sur la veine pâture, donc c'était les jachères, un champ qui a fini d'être en culture, ou qui en pose, ou à l'orée du bois, etc. Donc ça signifie qu'on a toujours une présence humaine, donc une possibilité d'intervention. Donc souvent, ce qui se passait, c'est qu'on avait une brebis, peut-être deux brebis, ou... Bon, ça dépend. Dans le cas des brebis, quand c'est une vache, c'est peut-être qu'un, c'est un peu plus conséquent, ou un cochon, qui pouvait être pris. Donc ça paraît pas beaucoup, mais évidemment, si par exemple au XVIIIe siècle, on est quand même dans une économie de subsistance, donc ça veut dire c'est le mouton de la famille perd son mouton, c'était évidemment catastrophique, plus que sur un gros troupeau. Et alors ce qui va se passer, surtout à partir au cours du XIXe siècle, c'est qu'on va avoir le phénomène d'enclosure. Donc c'est là où on va avoir nos champs aujourd'hui clôturés. Et ça, c'est une question qui serait intéressante lors de prochaines études, c'est de voir si ça a eu un impact justement sur le risque de nuisance. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème des attaques, c'est le surplus killing ou l'overkilling. Mmh. Donc c'est en fait typiquement un renard dans un poulailler, quand il tue toutes les poules, s'il ne va pas s'arrêter, et ben, c'est ce qui se passe avec le loup, où il peut tuer plus que ce dont il a besoin. Et ça, c'est notamment en fait... parce qu'en fait, un prédateur, il a, on va dire, un schéma d'attaque. Donc il repère sa proie, il la course, il y a la morsure de prédation. Quand la proie ne bouge plus, dans son cerveau, ça veut dire que c'est fini, il peut manger. Et puis, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir des bugs. C'est-à-dire que quand il se retrouve dans une prairie et qu'il tue une brebis, mais qu'autour, toutes les brebis s'affolent, ou les poules en cas renard, et continuent à courir, en fait, ça n'éteint pas le bouton, on va dire, de la chasse, et il continue à chasser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvement. Et donc là, on peut se retrouver avec énormément de dégâts pour les éleveurs, avec plusieurs dizaines de moutons qui sont abattus. Donc ça, c'est vraiment très problématique. Et ça, j'en ai dans mes sources. Mais typiquement, ça arrivait chaque fois dans des champs où on avait ce nouveau système de clôture. Donc ça peut arriver quand on a une présence humaine, hein, ça arrive par exemple dans les Alpes, hein, mais c'est moins fréquent. Donc là, c'est une question intéressante à explorer à l'avenir, c'est voir si ça a eu un impact, parce qu'évidemment, ça pose la question, alors là, de notre modèle d'élevage aujourd'hui, et à nouveau, de voir si on peut comparer entre hier et aujourd'hui.
Voilà. Déjà, merci. Hein. Pour la conférence. J'avais une question, mais pour revenir au bug dont vous parliez, j'avais vu un reportage qui disait qu'il y avait une différence entre les loups purs et les loups qui avaient connu un croisement, une hybridation avec des canidés. Ça veut dire que les loups qui étaient hybrides auraient plus tendance à avoir ce bug, justement, de tuer en série le bétail. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est...
Non, effectivement, il y a des études qui interrogent beaucoup cette question de l'hybridité. Alors évidemment, je pense qu'il n'y a pas encore... c'est seulement en cours, donc on n'a pas encore les réponses définitives, entre guillemets. Et cette question, elle est beaucoup posée, notamment en Italie, en fait. Donc on a toujours des populations loups, c'est jamais, n'a jamais disparu. Et il y a beaucoup de cas d'hybridation avec des chiens de protection, etc., au point qu'on a une question là de menace sur l'espèce du loup, parce qu'à force d'hybridation, on ne pourrait plus avoir de loup entre guillemets pur. Mais effectivement, il y a beaucoup d'études qui sont, quelques études qui sont faites et qui posent cette question au niveau sur le comportement, au niveau de la prédation sur le bétail ou même sur le risque pour l'être humain. Mais alors là, on n'a pas encore de certitude, quoi. Mais c'est effectivement quelque chose qui est étudié et qui pose question aussi dans le cas de l'histoire du loup, parce qu'à l'époque, on avait aussi beaucoup de chiens dans les campagnes, donc une série de divagants, donc il y avait potentiellement des hybrides. Et d'ailleurs, il y a quelques projets d'analyse paléogénétique qui ont été faits, notamment sur des loups en Sicile et en France, etc. On avait quelques cas de loups donc empaillés dans des qui appartiennent à des musées où finalement on a retrouvé pas mal de gènes de chiens dedans. Donc ce qui supposerait qu'on ait affaire à des hybrides. Donc là évidemment ça pose des questions sur leur comportement. Mais voilà.
Merci pour ta présentation et je voudrais que tu nous reparles un peu de ton cocktail en trois couches là.
Alors, si j'ai bien compris, il y a cette espèce de représentation sociale du loup qui est un peu déconnectée de la réalité parce qu'il n'y a plus le loup réel. Et je voulais savoir si dans les pays où il y a encore des loups, cette représentation sociale est différente et, si, et aussi sur quel, est-ce qu'au niveau historique, tu vois les régions où les loups commencent à disparaître, est-ce que tu vois au cours du temps un changement de cette évolution de la représentation sociale du loup ?
Alors j'avoue, je ne pourrais faire pas une réponse complète parce que je ne suis pas encore spécialiste de l'image du loup. Mais oui, il y a des évolutions, mais à nouveau, qui ne vont pas être uniquement liées en fait, à la présence du loup. C'est parce qu'on a un loup, un pays avec beaucoup de loups, qu'on aura forcément une bonne perception du loup. En fait, ça va dépendre de plein de facteurs, on va dire, de la culture d'un pays. Du pays, mais aussi par exemple des activités économiques. Donc ça peut même s'observer au sein d'un même pays. Donc si on prend l'exemple de la France, je pense que c'est dans le Verdon, il y a des études qui ont été faites et qui se sont rendues compte que par exemple, dans une région assez restreinte, on avait donc des villages voisins, un village, une communauté qui était plutôt, dont l'économie était reposée beaucoup sur l'élevage et une autre proche qui était là reposée plutôt sur l'exploitation forestière. Et au niveau des demandes de battues, on avait beaucoup plus de demandes de battues de la part des communautés avec de l'élevage que des communautés d'exploitation forestière, alors qu'ils étaient confrontés au même nombre de loups, tout simplement parce qu'évidemment l'impact des nuisances n'était pas du tout ressenti de la même façon. Donc là, ça va énormément dépendre de ce facteur-là. Alors au niveau à travers le monde, oui, on a différents exemples. Donc, par exemple, si on prend le Japon et l'Europe, donc l'Europe à partir du début du Moyen-Âge, pour caricaturer, hein, jusque, on va dire, la disparition du loup, on a quand même une image négative qui est dominante. On a une image positive, mais qui est plus réduite, tout de suite notamment à vraiment, par exemple, un facteur qui a beaucoup joué, ça va être la religion catholique, en fait, qui va faire du loup l'emblème du mal. Donc si on prend l'image, le loup qui attaque les brebis du berger, si on transpose ça au vocabulaire religieux, c'est le diable qui va détourner les fidèles conduites par le bon pasteur. Et donc là, on a quand même une image négative. Mais si on prend le Japon, où on avait aussi des loups, donc le loup qui produisait les mêmes nuisances, hein, on va avoir plutôt une image qui va être plus ambivalente, on va avoir une image négative, mais aussi positive, parce que le loup régulait les cervidés, et les cervidés causaient pas mal de dégâts dans les rizières. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment une question très compliquée, la question de l'image du loup, et ça renvoie à cette notion de la perception nuisible qui évolue au cours du temps. Loup, c'est un bel exemple. Finalement, aujourd'hui, pour regarder la littérature enfantine, on a quand même plein de contes pour enfants où le loup est devenu le héros. J'ai même vu des livres où on a un loup végétarien. c'est tout. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on peut vraiment avoir une évolution qui est vraiment à inscrire dans un complexe beaucoup plus global. Ça concerne le loup, mais ça concerne plein d'espèces. Par exemple, le dauphin. C'est quand même souvent l'animal qui est cité par les animaux préférés. Il faut savoir qu'au 18e et 19e siècle, c'était considéré comme un nuisible. Ils n'étaient pas du tout aimés, ils étaient énormément chassés parce qu'ils étaient tout simplement des concurrents, des pêcheurs et des dégâts dans les filets. Et ça, il y a pas mal d'autres exemples. Hein. Donc, j'ai oublié les sous-questions. J'espère que ça a été complet, la réponse. Ouais.
Par rapport à cette peur du loup, j'ai l'impression qu'historiquement, du coup, la première cause d'attaque de l'homme, c'était la rage. Est-ce qu'on a des données sur la prévalence de la rage chez les loups ?
Oui, et ce ne serait pas la première cause. Donc Jean-Marc Morisseau qui a fait beaucoup, beaucoup étudier ça. Lui, finalement, pour l'instant, dans ses données, on est sur un 50-50. Quasiment autant d'attaques de loups sains, anthropophages, que de loups enragés. Mais voilà, je pense que j'ai oublié, mais je pense qu'il va quasiment dans l'an 1000 au 19e siècle. Et là, il est à 6000 décès, quoi, pour toute la France. C'est pour ça que c'est pas si énorme que ça, finalement, quand on ramène ça pour le territoire et sur le nombre de siècles. Hein. Mais après, voilà, c'est pas beaucoup, mais par contre, ce sont souvent des morts assez, quand même, traumatisantes, en fait. Ce sont, évidemment, c'est assez choquant. C'est pour ça que ça marque beaucoup plus les esprits. Si vous voyez les morts par crash d'avion, c'est beaucoup moins nombreux qu'une collision routière, et pourtant ça nous impressionne tous beaucoup plus que... Voilà. Mais pour revenir à, par exemple, ces fameux trois couches, en fait, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais si je prends un exemple qui nous parle, par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films, beaucoup maintenant, aujourd'hui, il y a toujours cette scène où il y a un truc qui se passe, et alors tout le monde sort son smartphone et filme, il y a genre 10 personnes autour et personne ne fait rien. On sait que dans la vraie vie, enfin, moi personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, il y a peut-être une personne qui file. Mais nous, on a cette expérience de la réalité pour savoir que c'est une exagération, que ça, c'est pas ça. Maintenant, pensez, je ne sais pas, moi, on est en 2500, quelqu'un retrouve ce film et les smartphones n'existent plus. Il voit ça, mais quelle est votre réaction? C'est en mode, ah oui, à l'époque, d'accord, il y a quelqu'un qui tombait, tout le monde filmait, mais personne ne faisait rien. Donc en fait, c'est ça qui se passe, c'est que quand on a ce loup réel qui part, on n'a plus en fait finalement les clés d'interprétation du loup symbolique et du loup imaginaire. C'est peut-être plus clair comme ça.
Oui, quand on parle du loup fictif et on parle des histoires pour enfants, et je crois que c'est intéressant de les étudier et de les réécrire et de les réimaginer. Mais à côté de ça, il y a aussi les histoires pour adultes, parce que quand on suit un peu... les histoires qu'on se raconte dans les milieux complotistes, le loup est alive and kicking. Enfin, c'est vraiment, tout le monde s'inquiète de la grande épidémie des loups qui ont été placés. Hein, donc c'est bien de rappeler que même ça, c'est pas du tout le cas, et que les loups font partie d'un agenda. Enfin, je crois pas que je vais expliquer ici ce qu'on raconte, mais donc là, je vois quand même qu'il y a un nouveau narratif qui s'installe sur les loups qui vont, par exemple, attaquer les chats et les chiens des gens à la maison. Donc, c'est plus les moutons, mais c'est, attention, ça vient plus près et c'est plus dangereux et ça pourrait vous arriver à vous. Et si c'est le chien, cette fois, j'ai vu une photo hier, je ne sais même pas si c'est une photo vraie, hein. Je n'ai pas vérifié. Mais donc, une photo avec un loup qui a... soi-disant un chien dans la bouche, ah voilà, c'est ça qui va se passer, et la prochaine fois, ce sera nos enfants. Et donc ça aussi, c'est des histoires où il faut quand même mettre les choses en perspective et informer, même si je ne veux pas être trop naïf sur si on peut vraiment informer les gens qui sont vraiment dans leur histoire complotiste à elles. Mais voilà, il y a des histoires qui se racontent et qui apparemment sont quand même très, très partagé dans certains milieux. Et je trouve que c'est quand même problématique. Et donc, pour rebondir sur la question sur les élections et comment est-ce que notre gouvernement va se positionner par rapport à ça, je pense que, à côté du fait que notre gouvernement, pour le moment, n'a pas l'air d'être très écologiste, il est très populiste. Et je crains que là, il va y avoir un gros problème. Donc voilà, je...
Alors pour revenir sur la question des chiens, là, en fait, c'est possible. Désolée.
Oui, mais, bah oui, j'imagine. Oui, mais j'imagine. Mais il y a plein de chiens qui mordent des enfants aussi. Oui, on ne va pas enlever tous les chiens. Enfin, je veux dire.
Sur le tout côté historique, effectivement, on a quelques cas d'attaques de loups sur des chiens. Ça va être plutôt des chiens divagants ou quoi. Mais souvent, c'est vraiment exceptionnel où ce sont. Par exemple, souvent, ça se passait en hiver, mais on a des hivers beaucoup moins rigoureux aujourd'hui. Enfin, on n'a plus du tout des températures comme ça pouvait se faire à l'époque où le loup finalement était amené à venir chercher des proies de substitution. Et donc ça pouvait être le bétail, ça pouvait être des animaux de basse-cour, ça pouvait être parfois des chiens. Donc voilà, le risque zéro n'existe pas, c'est ça qu'il faut emporter, mais c'est marginal et peut-être que ça ne se produira pas. Jamais ici, parce qu'on n'a évidemment pas du tout la même quantité de loups, on n'a pas non plus les mêmes températures, on n'a pas non plus le même... Par exemple, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, aujourd'hui, dans l'histoire forestière, la forêt est à son plus haut niveau en Belgique. Le 18e siècle, c'était un grand siècle de déforestation, au point qu'en 1850, c'est le gouvernement belge qui a dit « là, il y a un problème ». C'est comme ça, par exemple, qu'on a plein de sapins en Ardennes, où il y a vraiment des efforts qui sont mis. Mais donc, on n'était pas du tout dans des paysages avec la même richesse en termes de forêt et de proies sauvages. Donc, on était quand même dans des contextes très différents. Oui, ça pourrait arriver. Alors, le cas des enfants, à nouveau, c'est assez spécifique. Moi, je pourrais jamais dire, oui, ça n'arrivera jamais parce que le risque zéro n'existe pas. mais c'est quand même exceptionnel. Et généralement, quand on regarde en fait les cas d'attaque à l'époque sur des enfants, la plupart du temps, les cas de figure, c'est que c'est en fait des enfants qui étaient des bergers. Et donc là, il pouvait y avoir une méprise entre le mouton et l'enfant qui était plus frais. Ils étaient aussi beaucoup plus petits, les gens à l'époque. Hein. Et donc, voilà. Voilà, ici, pour l'instant, les loups en Belgique sont quand même assez loin. Je ne sais pas si on a des habitations dans le cas des failles, mais oui, c'est vrai qu'il y a un gros travail de sensibilisation, de vulgarisation, d'esprit critique pour le cas du loup et sur plein de sujets dans la vie quotidienne. Et là, je vous avoue, comment faire, je ne sais pas. Enfin, il y aurait un investissement à faire, financier, mais... qui va le faire, cet investissement, ce travail. Mais
c'est peut-être intéressant de faire un petit infographie comme ça, le nombre d'enfants qui sont morts à cause d'une voiture, à cause d'un chat, à cause de connards, à cause de... Hein. Et, voilà. Et alors le loup. Ah ben, ah bon.
Et alors, comme souligné, le DEMNA travaille énormément sur la communication. Enfin, c'est vraiment un des enseignements de la France, c'est la transparence. Donc si vous allez sur le site du réseau loup, vous avez vraiment accès à toutes les données. Il y a quand même beaucoup de travail, donc toutes ces questions, ils expliquent la rage, il n'y a plus de problème, il y a beaucoup de sensibilisation et de nuances au discours. Donc par exemple, le cas des attaques sur le bétail, si vous allez ce soir-là, vous pourrez trouver une carte avec tous les cas d'attaque. Et alors, pour chaque cas d'attaque, vous pouvez aller voir dans votre région, je pense que celle, il n'y en a pas, mais si c'était du chien, si c'était du loup, si ça n'a pas été identifié, si les analyses sont en cours, etc. Donc ça, il y a quand même un travail de transparence. Après, comment sont utilisées ces informations Mais bon, pour ça, généralement, si vous regardez quand même les interviews des gens du DEMNA, ils sont toujours très nuancés, etc. Donc il y a quand même un travail, mais... Là, je pense à une question beaucoup plus sociétale et globale.
Mais pour rebondir là-dessus, je me demande à quel point il y a une influence de l'image, parce que des gens qui sont tués par des ours, ça pour le coup, il y en a. Enfin, tout le monde sait qu'il y en a. Et quand quelqu'un est tué par un ours, on dit mais il est con, pourquoi il est allé affronter. Enfin voilà, on dit jamais ah c'est un problème qu'il y ait des ours. Enfin voilà, les ours sont pas vus comme méchants, ils sont vus pas comme malhonnêtes, ils sont vus comme juste un animal. Il faut pas s'approcher quand on en voit quoi.
Les éleveurs, c'est mal vu en France.
En fait, ça dépend des régions.
Il n'y a pas la même symbolique. Pour le loup, on ne va jamais dire « Mais quel con, pourquoi il a essayé d'aller en forêt, dans le fin fond de la forêt ?» Évidemment qu'il allait... Enfin, il n'y a pas le... Enfin, on peut aussi se dire que quand on va dans le fin fond de la forêt, on sait qu'on va croiser des animaux dangereux, on sait qu'on doit être sur ses gardes et tout ça. De la même façon que quand on va dans la mer, on sait qu'il y a peut-être des requins et donc on est sur ses gardes, machin. Enfin, voilà, il y a une... Il y a une question qui est la même que pour d'autres animaux, quand même, non ?
En fait, cette question aussi, pour l'ours, se retrouve dans les régions où ça a été réintroduit. Donc, par exemple, dans les Pyrénées, ça ne se passe pas du tout bien, la réintroduction de l'ours. Je pense que du côté... C'est pas de l'Italie. Il y a quelques années, où il y a eu justement, je pense que c'était un coureur ou une coureuse qui s'est fait attraper par un ours, et elle avait ses écouteurs et je pense qu'elle n'a pas entendu. Et ça avait effectivement suscité beaucoup de questions en mode, mais le loup, vous voyez, l'ours n'a pas sa place ici. Alors que ce malheureux accident arrive aussi, par exemple, aux États-Unis, où là, bon, on dit, ah zut, elle n'a pas entendu, et on rappelle les mesures de sécurité. Et donc là, c'est deux cas de figure où on a un pays où le loup n'a toujours été là, et on rappelle les mesures de sécurité, et d'autres pays où l'ours est de retour. Et donc ça repose la question de sa présence, la légitimité de sa présence. Ça nous montre bien cette question un peu frustrante, parce qu'on n'a pas trop la main dessus, il est un peu abstraite. C'est la question du risque dans nos vies. Donc en fait, on a affaire à des régions où on a ce confort d'avoir vécu son risque et qu'il faut réapprendre ça. Donc ça paraît un peu bizarre, mais finalement, il y a ces parts de confort, je pense que le meilleur exemple, c'est la question de la voiture, quoi. C'est, dès qu'on dit on va limiter la voiture, ça crise tout le monde, c'est vraiment ce côté, la liberté que ça nous offre, on interdit la voiture, pire. Je pense que ça nous parle tous bien, la problématique, mais c'est pareil, en fait, de réapprendre à vivre avec ce risque. Et bon, mais là, on n'a pas pris dessus parce que c'est pas facile. Et surtout, c'est tout à chacun de l'accepter. On ne peut pas difficilement imposer, à part faire de la pédagogie et soutenir surtout ceux qui sont concernés, quoi.
C'est un problème culturel, en fait, ce que tu soulèves, parce que j'imagine que, je sais pas, un Indien qui a l'habitude de vivre dans un pays où il y a des cobras ou un Australien où il y a la moitié des animaux qui peuvent potentiellement le tuer, si tu le fais vivre chez nous et que tu lui dis, bah ouais, il y a le loup, il va falloir réapprendre à vivre avec, peut-être qu'il va dire, bah moi, je suis habitué à vivre avec des animaux potentiellement dangereux, donc oui, je vois pas le problème, quoi. C'est que nous, comme on n'a pas cette habitude-là, peut-être que c'est plus compliqué.
Ouais. C'est effectivement culturel et c'est aussi un peu, on revient toujours au nerf de la guerre, c'est économique. Par exemple, si on prend le Kyrgyzstan, il y a pas mal de loups. Il y a le nom m'échappe malheureusement. Il y a une étude qui a été faite par un anthropologue ou ethnologue, je ne sais plus, qui a suivi donc tout ce qui était éleveur nomade où il y a beaucoup de loups et qui expliquait en fait qu'ils vivaient beaucoup les éleveurs avec les loups. Et c'est aussi un peuple de chasseurs où il y avait un grand respect pour loups malgré les nuisances parce que par exemple voilà, ils ont beaucoup étudié le comportement du loup pour les techniques de chasse, tout simplement, et s'en inspirer. Et cette relation, en fait, elle s'est un peu dégradée. Alors, j'ai oublié les raisons, mais une des raisons, il me semble, c'est qu'évidemment, ils sont dans une situation économique plus compliquée. Donc, évidemment, les nuisances sont plus difficilement supportables. Et il me semble que pendant l'URSS, ils avaient été désarmés. Et donc, finalement, ils avaient des pertes, enfin, ils savaient moins bien se protéger. Bon, si vous êtes intéressé, vous voyez l'article parce que je ne l'ai plus en trop en tête. Mais ça montre que évidemment, on a le côté culturel, mais aussi la question de savoir avoir les épaules suffisamment solides pour supporter ce risque. Parce que si on prend le cas de nos éleveurs qui sont quand même déjà souvent au bord de la noyade, on peut leur apprendre à vivre en disant « bon, c'est la nature, ça doit apprendre à vivre avec ce risque ». Mais comment faire quand ils sont déjà étranglés financièrement et on va leur dire « en plus, tu vas perdre ça, et tu vas devoir faire toutes les procédures administratives pour aller faire avoir tes primes, qui ne sont pas payées évidemment à la seconde, etc. » Donc, c'est vraiment une réflexion globale, mais sociétale, économique, etc. Et c'est pour ça que je dis que toute la société est concernée, on ne peut pas dire que ce ne sont que les éleveurs et les politiciens. Là, je sors un peu de mon rôle de scientifique, hein. C'est plus mon avis, mais on a aussi un rôle de soutien des éleveurs. Je ne sais pas comment, hein, parce que bon, oui, en tant que consommateur, mais ça doit aller plus loin. Mais donc, voilà pourquoi finalement le loup est une question très complexe, c'est parce que ça prend en compte plein de facteurs, hein, énormément, et qu'on ne peut pas travailler que sur un. Donc voilà.
Non. Donc, enfin, dans ce qui ressort un peu, j'ai l'impression, comme ça, que le nombre d'attaques dépend quand même fort de la quantité de loups qu'il y a. Ça semble logique, en tout cas. Est-ce que, du coup, il y a dans les tiroirs une idée de le laisser s'installer, mais maintenir une population contrôlée d'une quelconque façon pour dire, OK, à partir du moment où il y a plus de, je sais pas, 1000 loups, ah ben là, voilà, on les freine, on fait je sais pas quoi, on autorise à en chasser 3, dès qu'il y en a 1003. Je sais pas, est-ce que c'est une idée qui est dans les tiroirs?
Cette question pour l'instant se pose pas en Wallonie parce qu'en fait on a très peu de loups dans l'espace. Il est quand même toujours considéré comme étant en danger parce qu'elle est vraiment très minime. Donc cette question n'est pas du tout d'actualité en Wallonie. Voilà, mais après, comme je disais, le nombre à nouveau c'est très difficile. Hein. Pour un pays, je sais pas, tuer 1000 loups ce sera pas beaucoup, pour d'autres beaucoup, parce que, enfin, pas tuer avoir 1000 loups, parce que. À nouveau, en fait, ça va dépendre du territoire, ça va dépendre du nombre d'élevages, de la situation des éleveurs, etc. Donc voilà, donc si un jour ça devait arriver en Belgique, je suis sûre, les débats, il y en aura toujours autant. Mais pour l'instant, on ne se pose pas du tout la question en Belgique. Hein.
Merci, je propose qu'on réapplaudisse encore une fois, Julie.